بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous poursuivons donc la série autour des 40 hadiths de Nawawi, donc la fameuse compilation de hadiths compilée par l'imam Nawawi, rahmatullah alayh. Et aujourd'hui nous abordons donc le hadith numéro 19. Ce hadith qui en réalité est un hadith essentiel dans la vie du musulman. C'est un hadith essentiel car en réalité tout le monde devrait l'apprendre dès le plus jeune âge ce hadith. C'est un hadith qui devrait rythmer nos vies. Il devrait rythmer nos vies, rythmer nos journées et chaque instant de nos vies en fin de compte. Chaque instant qui s'écoule. Ce hadith traite en réalité de la relation que doit avoir le serviteur avec son Seigneur Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, pour enfin et pour pouvoir espérer son aide et sa protection. Donc le hadith c'est le suivant. Donc je vais le lire à présent. Donc, An Abi al-Abbas, عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. Donc ici, le hadith, effectivement, j'ai cité deux versions du hadith, que je vais traduire là maintenant, inshallah ta'ala. Donc on va se baser sur la première version du hadith que je vais vous lire là maintenant. La deuxième va uniquement servir à compléter les enseignements, car effectivement, il y a des éléments complémentaires par rapport à la première version. Donc ici, le hadith, d'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Dieu agrée Abdullah et son père, a dit « Alors que j'étais assis sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Respecte les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Lorsque tu implores le secours, implore-le d'Allah. Et sache que si la communauté des musulmans se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose, elle ne t'en ferait profiter que si Allah l'a déjà inscrite pour toi. Et si elle se met d'accord pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que si cela a déjà été inscrit à ton encontre. Certes, les plumes qui inscrivent le destin sont levées et l'encre sur les feuilles sont séchées. » Donc ici, le premier hadith que je viens de vous citer, je cite le deuxième hadith qui vient en complément, qui nous dit donc le complément, respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Cherche à connaître Allah dans les moments d'aisance et il te connaîtra dans l'adversité. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Et sache aussi que la victoire vient certes après la patience et que l'issue favorable vient certes après l'affliction, et qu'après la difficulté, vient la difficulté. et qu'après la difficulté vient la facilité. Donc ici, concrètement, le hadith que je viens de citer, il y a plusieurs enseignements tirés concernant ce hadith. Parmi les enseignements, le premier enseignement, c'est préserve les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Yahfazillaha yahfazka. Préserve les limites et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. Ici, on comprend très clairement que la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala de son serviteur dépend directement de sa pratique religieuse. Et en réalité, on devrait se poser des questions quant à ce premier enseignement. Lorsqu'il nous arrive des difficultés, des problèmes, des situations de stress, plutôt que de nous plaindre sur nos situations et de remettre la faute sur les autres systématiquement, la vraie question est de savoir est-ce que je suis réellement à la hauteur dans ma pratique religieuse. Est-ce que, par exemple, je fais mes prières à l'heure? Est-ce que je fais ma prière, déjà, première question? Est-ce que je la fais à l'heure? Et quand je la fais, est-ce que je la fais en respectant les piliers, les conditions? Est-ce que je la fais avec concentration? Donc tous ces éléments, en fin de compte, des éléments à titre d'exemple, concernant l'adoration, nous montrent qu'en fin de compte, le musulman, avant de remettre la faute sur les autres, avant de se lamenter, il devrait d'abord chercher à trouver la faille chez lui, la raison du pourquoi il est dans telle situation. On a cité l'exemple de la prière, mais on pourrait citer également les méfaits liés au mauvais comportement. Car effectivement, parmi les bonnes mœurs de la religion, le bon comportement. Donc le fait que la personne n'ait pas forcément un bon comportement, le fait qu'elle laisse sa langue s'exprimer comme elle le souhaite, à travers la médisance, la calomnie, l'hypocrisie, etc., effectivement, ça fait partie effectivement des défaillances que peut connaître le musulman dans sa pratique religieuse, et donc justement s'exposer au fait qu'Allah ne le préserve pas. Et donc ici, Allah nous dit directement et nous dit clairement que les malheurs qui touchent le serviteur sont liés à nos manquements. Et ici, dans le verset 30 de la sourate de la consultation, Allah nous dit « وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » Et tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Donc ici, le verset nous dit clairement qu'effectivement, la situation délicate dans laquelle se trouve le serviteur est directement liée à ses manquements. Donc c'est une erreur de chercher en fin de compte un coupable, autre que soi. En fin de compte, on est le premier coupable. Lorsqu'il nous arrive un malheur ou une détresse, nous sommes les premiers coupables en fin de compte. Bien souvent, on accuse les autres, alors que l'origine du problème, c'est nous-mêmes. Effectivement, si tu cherches la paix, le bonheur, la tranquillité, alors ta pratique religieuse, c'est l'origine de ton bonheur et de la paix qui va s'installer chez toi. Pratique ta religion correctement et le bonheur va s'installer et la tranquillité va s'installer chez toi. Et ici, Allah Ta'ala nous le dit dans le verset suivant, « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » Donc dans la sourate les abeilles, le verset 97, Allah Ta'ala nous dit « Quiconque mâle ou femelle, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Subhanallah. Donc très clairement, on voit ici très clairement qu'en fin de compte, l'individu qui cherche le bonheur, subhanallah, il le trouve d'abord dans sa pratique religieuse. Et la première des bonnes œuvres, car ici Allah nous parle des bonnes œuvres, man amila salihan. La première des bonnes œuvres que peut faire le serviteur, c'est d'abord pour lui-même, avec une pratique religieuse à la hauteur. Des prières à l'heure, des prières à la mosquée, préserver les liens de parenté par exemple, tenir sa langue également. Malheureusement, bien souvent, nous cherchons le bonheur ailleurs. Nous cherchons le bonheur dans le matériel. Nous cherchons le bonheur dans les loisirs. Nous cherchons le bonheur dans la nourriture. Et ensuite, on vient se plaindre quant à la situation dans laquelle nous vivons. Le fait qu'il n'y a pas de tranquillité dans nos demeures, il n'y a pas de tranquillité dans nos situations, on ne connaît pas le bonheur, on cherche le bonheur, on le cherche partout. Et en réalité, le bonheur est dans la pratique religieuse, subhanallah. Dans la pratique religieuse et dans la recherche de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on a quelques exemples, subhanallah, de pieux prédécesseurs qui nous décrivent un petit peu le bonheur dans la pratique religieuse. Et ici, on a Ibrahim ibn Adham, qui nous dit لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibrahim ibn Adham? Il était tellement dans une situation de douceur de la foi, de bonheur spirituel, qu'il conclut en disant « Si les rois et les princes savaient et connaissaient la situation, le bonheur dans lequel nous vivons, nous, personnes musulmanes, qui sommes très attachés à la religion, alors à ce moment-là, ces rois et ces princes nous attaqueraient à coups d'épée et viendraient nous chasser à coups d'épée pour justement nous voler ce que nous avons comme bonheur. » Ça, c'est Ibrahim ibn Adham. Également, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, nous dit, subhanallah, une parole extraordinaire à méditer. Il nous dit, inna fi dunya jannatun, inna fi dunya jannatun, man lam yadkhulha la yadkhul jannah, man lam yadkhulha la yadkhul jannat al-akhirah. Il y a dans cette vie d'ici-bas un jardin, un paradis. Et ici, quand il cite le paradis, en fin de compte, dans cette vie d'ici-bas, c'est la douceur de la foi, la spiritualité, la religiosité du musulman. Celui qui ne connaît pas le parfum de la foi, la douceur de la foi, donc qui est en fin de compte ce paradis dans cette vie d'ici-bas, celui qui n'entre pas dans ce paradis terrestre, n'entrera pas dans le paradis céleste qui est justement Yawm al-Akhirah, Yawm al-Qiyamah. Également, le serviteur, lorsqu'il met en place une pratique sérieuse, il peut même être propulsé, subhanallah, au rang d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyullah. Le fait que le musulman yani, est assidu dans sa pratique et qu'il cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même être propulsé au rang d'allié. Et ici, un hadith très clair nous le dit. Le hadith Qudsi, le hadith divin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ici le hadith est extraordinaire. Le hadith divin, donc c'est la parole d'Allah qui est autre que la parole du Coran et que le Prophète nous rapporte, qui nous dit, donc Allah a dit: celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et ici, dans le premier enseignement donc, dans lequel nous sommes actuellement, concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, lorsque nous justement préservons les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ici, le serviteur atteint un degré très élevé, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, mais il déclare la guerre également à ceux qui lui veulent du mal. Donc il nous dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, et on va voir pour quelle raison il devient l'un de ses alliés. Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend, le pied par lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Donc ici, on voit très clairement qu'Allah, par son omnipotence et par sa puissance, il préserve le serviteur. Il préserve le serviteur au point où, dans le dernier cas que j'ai cité, il devient carrément, le serviteur devient l'allié d'Allah. Allah le préserve son ouïe, il préserve sa vue, il préserve justement tous les endroits qu'il peut fréquenter. Il préserve également tout ce qu'il peut saisir avec sa main, yani comme bien, etc., comme transaction. Donc yani, il va le préserver de tout ce qui est interdit, et yani, il sera yani, à sa bienveillance. Donc ici, très clairement, le serviteur, lorsqu'il pratique sa religion correctement, et qu'il cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que lorsque tu préserves les prescriptions d'Allah Ta'ala et que tu t'appliques dans ta religion, Allah Ta'ala vient à ton secours. Allah Subhanahu wa Ta'ala vient à ton secours, et quel secoureur qu'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a d'autre secoureur qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'individu devrait chercher secours uniquement qu'auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est le sens de la parole du prophète sallam dans le hadith: Ihfadillah tajidhu tujahak. Respecte les prescriptions et tu le trouveras devant toi à ton secours. Et ici, subhanallah, le premier réflexe du serviteur lorsqu'il cherche de l'aide, c'est d'invoquer Allah. Mais bien souvent, malheureusement, beaucoup oublient cette équation spirituelle. Beaucoup oublient lorsqu'ils connaissent des problèmes, des difficultés, ou lorsqu'ils sont dans la détresse, ils oublient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'en remettent directement aux créatures. Lorsque la personne est malade, par exemple, va directement voir le médecin, elle oublie qu'effectivement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison, que le médecin, en fin de compte, c'est juste un moyen. C'est juste une cause. Donc la personne se remet directement aux créatures, alors que le serviteur sérieux dans la pratique, le serviteur pieux, sérieux dans sa pratique, Allah lui apporte son aide en toute situation. En toute situation. Et comme nous le dit ici Allah Ta'ala, il nous dit: Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Dans Sourate les Abeilles, le verset 128, certes Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Et ici, dans ce verset en particulier, le fait que Allah est avec le serviteur, il y a deux sens ici à ce verset. Inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec les personnes qui craignent avec piété et qui sont bienfaisantes. Ici, les savants nous disent que le fait qu'Allah est avec son serviteur, il y a deux manières. Yani, pour comprendre ça. La première manière, c'est les savants ont expliqué le fait que ils ont appelé ça al-ma'iyya al-amma. Yani la proximité d'Allah générale. La proximité générale, si on peut traduire ça comme ça. En fin de compte, c'est l'omniscience d'Allah avec toutes ses créatures. Le fait qu'Allah voit tout de manière parfaite et qu'il entend tout de manière parfaite. Et il le dit dans d'autres versets également. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc ici, cette première catégorie de proximité divine, c'est Al-Ma'iyya, ce que le savant appelait Al-Ma'iyya Al-Amma. L'autre catégorie de proximité divine, et c'est celle qui nous intéresse ici, car elle est spécifique aux croyants, c'est Al-Ma'iyya Al-Khassa, ce que les savants appelaient Al-Ma'iyya Al-Khassa. Ici, il s'agit, en plus de l'omniscience d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il s'agit de l'assistance et de son secours, le secours d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'assiste, il te porte secours. Car effectivement, tu es un serviteur qui pratique sa religion correctement et qui cherche à satisfaire son Seigneur, qui recherche l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui cherche à avoir son paradis et qui essaye d'échapper à son enfer et à son châtiment. Donc ici, Allah Subhanahu wa Ta'ala, avec ce type de serviteur, les savants qualifient la proximité qu'Allah Ta'ala a avec ce type de serviteur comme étant une ma'iyya al-khassa. Al-ma'iyya al-khassa. Donc ici, on peut citer l'exemple de Moussa alayhi salam et son frère Haroun, lorsqu'ils ont été voir Pharaon et qu'ils avaient une petite crainte quant à la réaction de Pharaon et quant au fait que Pharaon, peut-être, il allait peut-être les saisir et les châtier. Qu'est-ce que leur a dit Allah Ta'ala? Donc il leur a parlé de cette fameuse proximité divine. Il leur a dit: La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez crainte, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et donc ici les savants nous expliquent qu'effectivement cette proximité divine est spécifique aux croyants. Et ici c'est ce que doit chercher en fin de compte tout serviteur. Le serviteur tout au long de sa vie, lorsqu'il pratique sa religion, il doit chercher effectivement la proximité divine, cette ma'iyya khassa, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala préserve son serviteur et le secourt. Et il le secourt. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, concernant son assistance et son secours: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. donc dans la sourate Muhammad, le verset 7, ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Il va raffermir vos pas. Donc ici, à nouveau, ce verset, quand on observe le fait que Allah donc, apporte son secours et le triomphe à celui qui défend sa cause, à celui qui pratique sa religion. Alors ici, à nouveau, celui qui est sérieux dans sa pratique religieuse, que ce soit au niveau des actes d'adoration, que ce soit également au niveau du comportement, donc le comportement, donc le fait de respecter les parents, de respecter les autres, de respecter les frères, de maîtriser sa langue, d'accord, au niveau du comportement de manière générale, celui qui est dans cette situation-là, Allah le fera triompher dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais malheureusement, bien souvent, on oublie, et on oublie très régulièrement, malheureusement, que nos pratiques religieuses, quand elles sont faites de manière sérieuse, donc alhamdoulilah, elles contribuent à propager l'islam et la faire triompher, alhamdoulilah. Mais bien souvent, on oublie effectivement que nos comportements vont aider à triompher la religion ou non. Dans quel sens? Lorsque nous pratiquons notre religion de manière générale, que ce soit à la mosquée, alhamdoulilah, à travers les actes d'adoration comme j'ai cité, ou même à travers notre comportement, car effectivement, le comportement fait partie de la religion, le bon comportement. Lorsque nous sommes à l'extérieur, nous sommes ambassadeurs de notre religion. Et le fait que nous ayons un mauvais comportement, le fait que les non-musulmans, par exemple, observent notre mauvais comportement, le fait que nous mentons, le fait que nous parlons à voix haute très très fort, de manière irrespectueuse, que nous soyons agressifs, que nous ne respectons pas nos voisins, par exemple, etc. Toutes ces mauvaises choses vont justement causer du tort à la religion. Et celui qui, dans ce cas-là, justement, se prive du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son assistance, quand bien même il prie, quand bien même il prie de nuit et de jour, quand bien même il jeûne très régulièrement, son mauvais comportement porte préjudice à la religion. Le fait qu'il soit ambassadeur sans qu'il le sache, effectivement, porte préjudice à la religion. Le musulman doit prendre conscience qu'il est ambassadeur de sa religion. Il est ambassadeur de sa religion et le non-musulman observe de très très près, effectivement, le comportement du musulman car il représente la vitrine de l'islam et de la religion de manière générale. Ensuite, le troisième enseignement, c'est le fait que le troisième enseignement, c'est le fait de placer totalement sa confiance en Allah. Lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous l'invoquons, lorsque nous l'implorons, il faut absolument placer sa confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est le sens de la partie du hadith que nous avons lu tout à l'heure. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Lorsque tu implores le secours, implore Allah, implore-le d'Allah. À nouveau, on se repose bien, bien souvent la question. Nous oublions bien souvent de placer notre confiance totalement dans Allah. Quand bien même je sollicite une personne pour qu'elle vienne m'aider, on pense souvent que l'affaire est entre ses mains. On va demander à quelqu'un un service, et bien malheureusement, bien souvent, on pense que l'affaire est entre les mains de la personne. On oublie effectivement que toute l'affaire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'affaire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour la recherche d'un travail, que ce soit pour la recherche d'un logement, que ce soit pour la réussite à un diplôme, que ce soit pour la recherche du mariage, effectivement, également. On oublie que les gens ne sont que des causes, que des moyens, avec toutes les défaillances que ça peut comprendre. Car effectivement, l'être humain n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait. Alors un jour, on va lui demander un service. Alors un jour, il est fatigué. L'autre jour, il n'est pas dans la capacité de pouvoir nous aider. C'est pas dans ses cordes. Un autre jour, la personne nous rend le service, mais elle nous le rend à moitié, de manière partielle. Un autre jour, elle nous rend le service, mais d'une manière assez désagréable, pour nous faire comprendre qu'il faut arrêter de l'embêter. Ou bien encore, si on insiste, là, la personne va commencer à nous éviter. La personne va commencer à nous éviter, car les demandes sont trop incessantes. Les demandes sont incessantes. L'individu, dans cette situation, il oublie quelque chose de très important. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Où a-t-il mis, yani, l'équation spirituelle? Et Allah dans tout ça? Et Allah dans tout cela? Allah, c'est celui qui ne se lasse d'aucune demande. Il se lasse d'aucune demande et répond à celui qui l'invoque. C'est celui qui justement a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est celui dont les bienfaits sont infinis. Et si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas à les dénombrer. Également, c'est celui qui, lorsqu'il répond, il fait triompher. Et si Allah vous donne la victoire, alors personne ne peut vous battre. Personne ne peut vous battre. C'est celui également qui est honoré, subhanallah, qui est honoré lorsque tu lui demandes. Lorsque tu demandes à Allah Ta'ala, il est honoré, subhanallah. Et ici, le hadith est clair là-dessus. Laysa shay'un akrama 'ala Allahi 'azza wa jalla min ad-du'a. Il n'y a pas de chose plus honorable pour Allah Ta'ala que l'invocation de son serviteur, subhanallah. Également, Allah Ta'ala, c'est celui qui aime lorsqu'on lui demande de ses bienfaits. Il n'est pas avare de ses bienfaits. Et c'est le sens de la parole du prophète sallam dans laquelle il nous dit Sallallaha min fadlihi. Allah c'est également celui qui, lorsque le serviteur s'approche de lui en marchant, il vient à lui avec empressement, subhanallah. Shibran, ziraan. Ziraan, minhu ba'an. Atani yamshi, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Yani, qu'a-t-il ce serviteur à ne pas invoquer Allah Ta'ala? Qu'a-t-il ce serviteur à se détourner de celui qui répond à l'invocation et à s'orienter vers celui qui est incapable de t'aider réellement? Celui qui est faible face à la situation. Comme toi tu es faible face à la situation, il est également faible. Qu'avons-nous, nous serviteurs, à oublier effectivement celui qui répond à l'invocation et à se tourner vers les causes et à prendre comme référence la cause, l'être humain, à penser qu'effectivement tout est entre ses mains. Alors ici, le serviteur, il doit absolument prendre conscience qu'effectivement, les créatures sont uniquement des causes. Et que s'il souhaite qu'Allah lui réponde, et qu'Allah le préserve, et qu'Allah réponde à ses invocations et qu'il le secourt, alors il faut absolument qu'il place sa confiance en Allah. Également, le serviteur doit avoir à l'esprit que pour qu'Allah lui réponde, il faut absolument que le serviteur se souvienne d'Allah également dans les périodes de confort. Qu'il se souvienne d'Allah dans les périodes de confort, mais également dans les périodes d'aisance. Et non pas uniquement dans les périodes de détresse et d'épreuve. Effectivement, malheureusement, le serviteur, dans beaucoup de situations, il oublie Allah. Lorsqu'il est touché par un bonheur, il oublie Allah. Et lorsqu'il est touché par un malheur, à ce moment-là, là, il commence à invoquer Allah. Là, il commence à chercher à s'humilier devant Allah pour justement qu'Allah l'écoute et l'observe. Et ici, c'est le sens de la parole du prophète sallam dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure en introduction. Ta'arraf ila Allahi fi rakha, ya'rifka fi shiddah. Cherche à connaître Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans l'adversité et la difficulté. Alors effectivement, on doit se poser des questions là-dessus. Est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tout va bien? Ou est-ce que nous attendons plutôt que tout va mal pour justement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tout va bien, qu'est-ce que nous faisons réellement? Nous rappelons-nous encore d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala quand tout va bien? Est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je suis ou lorsque nous sommes en bonne santé? Ou plutôt, on attend uniquement d'être malade pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une douleur au ventre, d'avoir une douleur à la tête, d'avoir de la fièvre, de partir à l'hôpital, de se retrouver aux urgences pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous sommes dans l'aisance financière? Lorsque tout va bien financièrement, est-ce qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien plutôt on invoque Allah subhanahu wa ta'ala uniquement lorsque nous sommes touchés par la difficulté financière, par des dettes, par une amende extraordinaire qui tombe sur nous? Des impôts faramineux qui viennent nous tomber dessus? Est-ce que c'est uniquement dans ces situations délicates que nous invoquons la Smita? Mais quel serviteur sommes-nous réellement, subhanallah? Quel serviteur réellement sommes-nous? Est-ce que nous invoquons la Smita dans les moments de joie? Ou est-ce que c'est uniquement dans les moments de tristesse et de chagrin que nous pensons à invoquer la Smita? Donc ne soyons pas comme ceux à propos de qui Allah SWT a dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans la sourate l'Exode, le verset 19, Allah SWT parle de ces personnes justement qui ont oublié Allah SWT à un moment donné, qui se sont éloignées d'Allah SWT. Regardez ce qu'il dit. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah SWT. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Et ici, les savants nous expliquent que le fait d'oublier, que le fait qu'Allah fasse oublier leur propre personne, à ces personnes justement qui ont oublié Allah, c'est le fait qu'il leur fait oublier leurs bonnes actions, qu'ils n'arrivent même plus à distinguer la bonne action de la mauvaise action, et que les actions qu'ils font ne leur sont même plus profitables ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Que leurs actions ne leur sont même plus profitables ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait oublier leur propre personne. Ils arrivent même plus à distinguer le bien pour eux, ce qui leur est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre vie, la vie de l'au-delà. Donc ici, que Dieu nous préserve, que Dieu nous préserve. Donc là, ça c'était l'enseignement, le troisième enseignement concernant le fait que l'individu doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit placer sa confiance uniquement en Allah. Quand bien même il fait appel à un serviteur pour l'aider, il n'y a pas de mal là-dessus, mais il doit avoir à l'esprit que ce serviteur est uniquement une cause et un moyen, et non pas celui dont à travers qui l'affaire est entre ses mains. Quatrième enseignement qu'on peut tirer du hadith, c'est le fait que le musulman, le serviteur, doit croire fermement au destin et au décret divin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ici, c'est le sens de la parole du prophète sallam dans lequel il nous dit وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si la communauté se mettait d'accord pour te faire profiter d'une chose, elle ne t'en ferait profiter que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a déjà écrite pour toi. Et ici, en fin de compte, ce hadith, cette partie du hadith en particulier, doit nous pousser à accentuer les invocations, à invoquer davantage. Car effectivement, on comprend ici tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et qui retient. C'est lui qui préserve et c'est lui qui va autoriser le mal à s'abattre sur nous. Ici, on comprend très clairement que lorsqu'une personne, ou un groupe de personnes, vient nous aider tout simplement, il vient nous porter une aide particulière, en fin de compte, c'est Allah SWT qui nous aide ici, à ce moment-là. Et bien, bien souvent, on l'oublie ça. On oublie que c'est Allah SWT qui l'a écrit, yani, fil lawh al-mahfouz, donc dans le livre bien gardé auprès d'Allah SWT, comme tout est écrit, bien avant la création, tout a été écrit. Et effectivement, le fait que cette personne puisse venir m'aider, effectivement, c'est la permission d'Allah SWT. Allah SWT a permis à ce que cette aide me parvienne de la part de ses serviteurs. Car c'est lui qui a écrit pour nous que la personne pouvait nous aider. En réalité, on doit se poser la question, si dans notre esprit, on a intégré que c'est Allah qui nous aide, que c'est Allah qui nous aide et que ce n'est pas uniquement cette personne qui nous aide. Alors effectivement, on peut se poser la question notamment au niveau médical. Au niveau médical, quand on fait le rapport avec notre quotidien, on oublie que ce n'est pas le médecin qui guérit. Le médecin est uniquement une cause. Et que avant d'aller voir le médecin, en réalité, on doit invoquer Allah SWT. On invoque Allah SWT pour qu'il facilite le travail au médecin, pour qu'il permette au médecin de nous guérir. Donc effectivement, yani, on doit remettre nos pendules à l'heure en fin de compte, dans notre relation envers Allah Subhanahu. Les pendules doivent être remises en ordre. Et ceci doit nous augmenter, doit nous amener à augmenter nos demandes auprès d'Allah Subhanahu, à l'invoquer exclusivement, afin qu'il nous aide et nous comble ses bienfaits. Et ici, Allah Subhanahu nous le dit, قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et tout provient d'Allah Subhanahu. Il nous le dit lui-même, tout provient de moi. Tout provient d'Allah Subhanahu. Ensuite, dans la suite du hadith, le prophète sallam nous dit: وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et si la communauté se met d'accord pour te nuire, elle ne pourra te nuire que si cela a déjà été inscrit à ton encontre. Et effectivement, ici, cette partie du hadith doit nous apaiser d'un côté, mais elle doit aussi nous pousser à chercher refuge uniquement auprès d'Allah Subhanahu. Car effectivement, si des personnes nous cherchent du mal, ou un groupe de personnes, que ce soit parmi les êtres humains ou parmi les djinns, le musulman est confiant, alhamdoulilah. Le musulman est confiant et apaisé que ceci n'est possible uniquement si Allah Subhanahu l'a décrété pour moi. Car la personne qui craint systématiquement le mal des gens, leurs agissements, leur stratagème, en fin de compte, cette personne-là, en entendant cette partie du hadith, ne doit plus être touchée par ce sentiment de panique et de stress, ou de tristesse. Car ce qui touche la personne comme mal, c'est uniquement ce qu'Allah avait écrit pour toi. Il n'y a aucun échappatoire. Aucun échappatoire. Lorsqu'Allah a écrit quelque chose pour toi, il n'y a pas d'échappatoire. Et si cela n'est pas écrit, alors il ne t'arrivera pas du tout, ce mal. Il ne t'arrivera rien du tout. Quand bien même la communauté entière et toute la création des hommes et des djinns cherchent à te nuire à ce moment-là, si cela n'est pas écrit, à ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Et ici, c'est en ça que le musulman, yani, doit augmenter sa confiance en Allah Ta'ala. Il doit placer sa confiance en Allah Ta'ala au niveau de la croyance, au niveau du destin. Car effectivement, bien souvent, on a des personnes qui sont anxieuses, qui sont paranoïaques, ou qui sont, comment dire, inquiète de telle ou telle situation, ils se mettent dans des états de traumatisme psychologique, dans des états de démence, yani, en pensant que l'affaire est entre telle personne ou telle personne, ou telle personne va lui causer du tort, et donc, alors qu'en fin de compte, subhanallah, yani, c'est Allah ta'ala qui préserve. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve. C'est Allah ta'ala qui autorise ou non qu'un mal te touche. C'est Allah ta'ala qui, avant la création des cieux et de la terre, a écrit pour toi si oui ou non tel mal allait te toucher ou non. Et ici, Allah nous le rappelle dans le Coran, à maintes reprises, l'importance de la croyance au destin, bon ou mauvais, et le fait que tout provient de lui. Il nous dit dans Sourate les Femmes, le verset 78, قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également dans Sourate al-Hadid, la Sourate le Fer, le verset 22, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Nul malheur ne t'atteint, afwan, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre, avant que ce malheur ne soit créé. Avant que ce malheur ne soit créé, subhanallah. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre, avant que ce malheur ne soit créé, subhanallah. C'est-à-dire que le malheur a déjà été écrit avant même qu'il te touche, subhanallah. Également, la Sana nous dit: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dans Sourate le Repentir, le verset 51, Allah Sana nous dit: rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre Seigneur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc ici, très clairement, le serviteur doit avoir la ferme conviction et il doit placer sa totale confiance en Allah Ta'ala quant au fait que les gens peuvent lui causer du tort ou plutôt que les gens puissent l'aider. Bien souvent, malheureusement, les personnes dont un bienfait n'a pas pu se réaliser ou un service n'a pas pu se réaliser, ils vont se lamenter. Également, si un mal les touche, ils vont se lamenter également. Ils oublient effectivement que ceci fait partie du destin, bon ou mauvais. Et effectivement, la suite du hadith nous le dit: Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. Certes, les plumes qui inscrivent le destin sont levées et l'encre sur les feuilles a séché. Et ici, très clairement, le musulman ne doit pas remettre en cause le destin. Ne doit pas remettre en cause le destin. Au contraire, il doit chercher refuge auprès d'Allah Ta'ala. Comme on le verra, il doit chercher refuge auprès d'Allah Ta'ala avec patience. Mais à aucun moment, il doit remettre en cause le destin. Car ici, effectivement, il y a un point important ici, quand même, au niveau du destin. C'est que le musulman, il a foi au destin. Il croit en Allah Ta'ala. Et bien souvent, malheureusement, on observe des comportements où des personnes vont commencer à baisser les bras face à des épreuves, ou tout simplement prononcer des propos qui vont remettre en cause le destin. Comme le fait de dire, par exemple, lorsqu'il nous arrive un mal, comme par hasard. Ou le fait de dire, quelle chance aujourd'hui, de manière ironique. On dit déjà, on dit, Shmin zhar andi, subhanallah, l'yuma. Malheureusement, yani, ces propos viennent justement remettre en cause le destin. Et encore pire que ça, elles viennent remettre en cause le destin, mais surtout, elles démontrent que le serviteur a une mauvaise opinion de son Seigneur. Et ici, c'est une grave erreur dans la foi, dans la croyance, le fait d'avoir une mauvaise opinion de son Seigneur. Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te touche d'un mal, effectivement, c'est un bien pour toi en fin de compte. Comme nous le dit Allah, subhanahu wa ta'ala, « Asa antakrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut qu'un mal vous touche, mais en fin de compte, c'est un bien pour vous. Il se peut qu'un mal vous touche, mais c'est un bien pour vous. Et il se peut qu'un bien vous touche, mais c'est un mal pour vous, subhanallah. Et bien souvent, on a pu observer dans notre quotidien, chacun dans son quotidien, que des fois, un mal, ben, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il se transforme en grand bien, subhanallah. Et on se dit, subhanallah, heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que ça n'aurait pas pu se passer autrement. Ça n'aurait pas pu être une meilleure situation que de cette manière-là, subhanallah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit « La yamutanna ahadan minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah » Et que nul d'entre vous ne meurt sans que il ait une bonne opinion de son Seigneur. Que nul d'entre vous ne meure sans qu'il ait une bonne opinion de son Seigneur. Et le fait de croire au destin, et le fait d'accepter le destin, de patienter face au destin, de mettre en place des causes pour effectivement améliorer sa situation, mais le fait de croire au destin ne doit pas nous amener à dénigrer ou à remettre en cause nos situations. Le musulman accepte la situation, alhamdoulilah, il met en place des causes pour pouvoir faire évoluer, faire changer la situation, mais il ne remet pas en cause avec des paroles, ou avec des gestes, ou avec des manières, yani, qui montrent justement que le musulman dénigre le destin. Également, certains peuvent tomber dans un autre piège. C'est le fait de se dire, ben, le destin, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a prescrit, m'a déjà écrit mon rizq, donc je ne fais rien. Et ici, Omar ibn Khattab répond à ces personnes-là. Car effectivement, alors qu'il était à la mosquée, Omar ibn Khattab voit des personnes installées, un groupe de personnes s'installer, et il leur a dit, que faites-vous ? Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont dit, nahnu mutawakkilun. Nous sommes des personnes qui ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout est déjà écrit, donc on s'en remet uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait aucune cause. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Omar ibn Khattab ? Il leur a dit, bel antum mutawakkilun. Vous êtes des gens qui reposaient, des fainéants, en fin de compte, qui reposaient sur justement du vide, qui reposaient sur du vide, sur l'assistana. Vous êtes des fainéants. Et il leur a répondu quoi ? Il leur a répondu, yani, anna sama la tumtiru dhahaban wa la fidda. Le ciel ne fait pas tomber de l'argent, de l'or et de l'argent. Alors levez-vous. Levez-vous et yani, allez-y au travail, allez-y travailler. Et si effectivement là c'est un message à toutes les personnes, effectivement, toutes les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir, dans le fait que la personne se dise, ben, alhamdoulilah, j'ai mon risque, c'est terminé, je ne fais aucun effort, je me contente, Allah il m'a décrété la pauvreté. Akhouya, mon frère, ma soeur, yani, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et fais les causes. Le destin, effectivement, existe, on a la ferme croyance au destin. Mais cela ne doit pas nous empêcher à mettre en place les causes. Ça, c'était le quatrième enseignement, la foi au destin et la ferme conviction au destin. Et le fait de placer sa confiance en Allah Ta'ala. Cinquième enseignement, et c'est le dernier, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'incitation à la patience face à l'épreuve. Et que face à une difficulté, il y a toujours une issue favorable. Et c'est ici le sens de la parole du prophète sallam qui nous dit: وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et sache aussi que la victoire vient certes avec la patience, et que l'issue favorable vient certes après l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. Donc ici, le serviteur, en réalité, il doit affronter les difficultés, les moments de détresse qu'il vit au quotidien. Il doit les affronter avec patience. Il doit les affronter avec patience. Et malheureusement, bien souvent, c'est le manque de patience qui provoque des crispations. C'est le manque de patience qui provoque des échecs. C'est le manque de patience qui crée des ruptures dans les relations avec les autres. C'est le manque de patience qui fait tomber le serviteur dans les péchés. Alors ici, les savants nous orientent un petit peu sur la patience et nous donnent les différentes catégories de patience. Ici, en l'occurrence, ici, Ibn Qudama. Les différentes catégories de patience. Et subhanallah, à l'étonnement général, on pourrait penser que la patience, c'est uniquement dans la détresse, dans la difficulté, dans le malheur. Mais ici, les savants nous citent, parmi les patiences les plus difficiles, c'est la patience dans l'aisance. La patience dans l'aisance et dans le confort et dans le plaisir. Et subhanallah, il y a cette patience, certains pieux la considèrent comme étant la plus difficile. Au point où ils disent: Al-mu'minu yasbiru 'ala al-bala wa la yasbiru 'ala al-'afiyah. Le croyant patiente dans la détresse et se relâche dans l'aisance et dans le confort. Et c'est la raison pour laquelle, justement, les pieux, le croyant, il ne se laisse pas avoir par le confort, par le luxe, par l'aisance. Car il sait effectivement que ces choses peuvent l'éloigner de sa rigueur dans sa religion, de sa foi, peuvent affaiblir sa foi, effectivement, dans le fait d'être diverti, dans le fait de se préoccuper par autre chose que la foi et la spiritualité. L'autre catégorie de patience, c'est la patience face au malheur. Effectivement, la personne qui est touchée par un décès, par une maladie, que Dieu nous préserve, effectivement, là, la patience est importante. Et Annie, comme nous dit le prophète, la patience est aux premiers instants. Et Annie est aux premiers instants. Et également, le fait de patienter, c'est le fait de ne pas avoir un comportement excessif dans la tristesse, dans la colère. Comme nous dit ici le prophète, laïsa minna man darab al-khudud, ou shaqqa al-juyub, ou da'a bida'wa al-jahiliya. Il n'est pas des nôtres celui qui se frappe les joues, ou qui arrache justement ses vêtements, ou qui profère des propos dignes de la période pré-islamique. Donc le fait de dire des insultes, le fait d'insulter, le fait de crier, etc. Donc ici, la patience doit justement éviter ce type de situation. La troisième catégorie, c'est la patience face au péché. Subhanallah. Donc le fait que le patient, la personne qui est patiente, à travers sa patience, elle doit souvent, les personnes qui sont malheureusement nouvellement, fraîchement entrées dans la religion, ou qui sont revenues, Allah Ta'ala, dans la religion, bien souvent, leur passé revient un petit peu et c'est difficile pour eux comment dire, de se détacher des mauvaises habitudes qu'ils avaient auparavant, les péchés qu'ils commettaient auparavant. Et ici, en sorte, cette patience, elle est pour eux en particulier ici également. Elle est pour tout le monde, mais en particulier pour eux, car effectivement, le fait de se détacher des péchés, ils doivent patienter dans ça. C'est une patience, c'est un effort. Un effort justement dans le fait de se détacher des péchés qu'ils commettaient auparavant. Mais également les péchés qui malheureusement sont très récurrents, comme la médisance, la calomnie, l'hypocrisie, le mensonge. Le serviteur, le sincère serviteur, le sincère croyant, doit patienter dans le fait de s'éloigner de ces cercles. Quand bien même tout le monde s'adonne à ce péché, qui est le mensonge, l'hypocrisie, la calomnie, la médisance, quand même tout le monde s'adonne à ça, le croyant, le véritable croyant, il s'isole, ou justement il patiente dans le fait de ne pas tomber dans ça. Donc ça, c'est la patience face au péché. L'autre type de patience, c'est la patience face aux actes d'adoration. Alors ça paraît, il y a un, de premier augure, ça paraît un peu particulier. Comment ça, la patience dans les actes d'adoration? Effectivement, même dans les actes d'adoration, le musulman doit faire preuve de patience. Alors ici, les savants nous disent que dans les actes d'adoration, il fait preuve de patience au début de l'acte d'adoration, c'est-à-dire qu'il doit corriger son intention. Si on prend l'exemple de la prière ou d'une aumône, par exemple, le musulman, avant l'acte d'adoration, il doit bien corriger son intention. Et effectivement, c'est une forme de patience, car il doit scruter, il doit regarder avec minutie, effectivement, et année pourquoi il fait ça, pourquoi il fait un acte. Donc ici, en sorte, en somme, effectivement, il corrige son intention contre l'ostentation, contre le matu vu, contre la contemplation. Donc avant l'acte, il doit être patient et scruter effectivement le fait que son acte est voué exclusivement pour Allah Ta'ala. Également pendant l'acte d'adoration, le serviteur doit veiller à respecter yani, les bienséances de l'acte d'adoration, les conditions de validité de l'acte d'adoration, les piliers qui comportent l'acte d'adoration. Et si on prend l'exemple de la prière, le fait que la prière soit faite à l'heure, le fait que la prière soit faite de manière sereine, le fait que la prière soit faite avec concentration et dévotion. Donc tous ces éléments, yani, sollicitent la patience du serviteur. Le serviteur doit être patient, même lors de l'acte d'adoration. Effectivement, la patience également, toujours dans l'acte d'adoration, elle est demandée même après l'acte d'adoration. La patience est demandée même après l'acte d'adoration, subhanallah. Dans le fait de ne pas divulguer ses bonnes actions. Dans le fait de ne pas divulguer ses actes d'adoration. Comme la personne qui pourrait faire une aumône, par exemple, et se vanter auprès des autres du montant de son aumône. Ou devant tout le monde, donner son aumône, effectivement. Et par la suite, commencer justement à se montrer, se mettre en avant. Donc effectivement, ici, son acte d'adoration est annulé. Son acte d'adoration est annulé car elle a manqué de patience après l'acte d'adoration. Elle a manqué de patience après l'acte d'adoration. Et ici, subhanallah, les savants nous citent quelques mérites de la patience. Concernant les mérites de la patience. Le fait que, subhanallah, le patient, le serviteur qui est patient, bénéficie de l'assistance et le secours d'Allah Ta'ala, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc il bénéficie de l'assistance et le secours d'Allah Ta'ala. Donc à titre d'exemple, on cite quelques mérites rapidement. Allah Ta'ala nous le dit dans Sourate La Vache, le verset 53, le verset 153, Afwan. Inna Allah ma'a sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Et comme on l'a expliqué, Al-Ma'iyya ma'iyyatun khassa. Donc la proximité spécifique aux croyants. Effectivement, on a cité l'omniscience, Al-Ma'iyya al-Amma, mais également Al-Ma'iyya al-Khassa. Et celle-ci est spécifique aux croyants. Yani, qui signifie l'assistance et le secours d'Allah Ta'ala. Également, le musulman, lorsqu'il est patient, il obtient l'amour d'Allah Ta'ala. Comme nous dit Allah Ta'ala dans Sourate Al-Imran, le verset 146, Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah Ta'ala aime les personnes patientes, les serviteurs patients. Également, la personne qui est patiente, yani, pour elle, c'est un signe de bonne annonce. De bonne annonce pour la vie d'ici-bas, mais également pour la vie de l'au-delà. Comme nous le dit Allah Ta'ala dans le Coran, Wabashiris sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients afwan. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Également, la patience est également une cause de l'entrée au paradis. Comme nous le dit Allah Ta'ala dans le Coran, Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dans Sourate les Hommes, ou Sourate l'Homme, le verset 12. Et il les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Donc ici, très clairement, on voit que la patience est une chose qui est demandée. C'est une chose qui est demandée et le serviteur doit s'adonner justement à la patience. Et toujours concernant le dernier enseignement, le fait que après la difficulté, il y a la facilité. Et que l'issue favorable vient certes après l'affliction, lorsqu'on est touché par une difficulté, il y a la facilité qui viendra et la solution qui viendra par la suite. Et ici, subhanallah, c'est une annonce extraordinaire en fin de compte pour le croyant. Le croyant qui vit dans la difficulté. Il sait systématiquement qu'il aura une solution, alhamdoulilah, qui viendra d'Allah. Et ici, la parole du prophète sallam, qui vient justement nous préciser cette chose, le fait qu'il vient nous préciser qu'effectivement, il y a systématiquement une solution, une facilité, une issue favorable à chaque difficulté. Il nous dit, le prophète sallam, alors qu'il était assis avec les compagnons, et il observa un trou dans lequel rentrait justement une bête, il dit, « Là où j'a al-usru, fadakhala hadha al-hijr, la j'a al-yusru, fadakhala alayhi fa'akhrajah. » Donc ici, le prophète sallam nous dit, si la difficulté était entrée par ce trou, alors la facilité serait entrée également par ce trou, et l'on aurait fait sortir. Subhanallah. Également, le prophète sallam nous dit, لن يغلب عسر يسرين. Jamais une difficulté triomphera face à deux facilités et à deux issues favorables. Et ici, subhanallah, c'est extraordinaire cette parole du prophète sallam, car effectivement, le prophète sallam dit cette chose-là en se basant sur le verset où Allah ta'ala nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Ici, les savants nous expliquent pourquoi le prophète sallam dit que une difficulté ne triomphera jamais face à deux facilités ou à deux issues favorables. Car effectivement, dans le verset, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ, Allah ta'ala, lorsqu'il qualifie la difficulté, il la définit avec l'article L. Donc là, ici, il y a une petite notion de grammaticale, mais qui est très très intéressante ici. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, donc ici, الْعُسْرِ, est défini par l'article L. Donc il est défini. Et lorsqu'un mot est défini en arabe, et qu'il est répété, alors à ce moment-là, yani, son sens reste le même. On parle de la même chose, donc de la même difficulté. Donc ici, le premier mot difficulté qui est cité, parce qu'il est cité deux fois en apparence, mais en fin de compte, il s'agit de la même difficulté. Et yusra est indéfini. Et ici, dans la langue arabe, lorsqu'un mot est indéfini et qu'il est répété, il a un sens différent. C'est-à-dire qu'il signifie la répétition. La répétition et l'abondance en fin de compte. Donc ici le fait qu'une difficulté se voit faire face à plusieurs issues favorables, ici on comprend mieux la part du prophète sallam lorsqu'il nous dit la yarliba yusrun yusrin. Il n'y a jamais une difficulté n'a triomphé face à des issues favorables, à deux issues favorables. Donc ici voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce hadith. Rapidement, on résume un petit peu les cinq notions, les cinq enseignements. Préserve les prescriptions divines et Allah te préservera et te secourira. Lorsque tu invoques exclusivement Allah et invoque-le dans l'aisance comme tu l'invoques dans la difficulté. Place ta confiance exclusivement en Allah quand bien même tu demandes de l'aide et de l'assistance à d'autres personnes. Il faut absolument avoir à l'esprit que la personne est uniquement une cause. Avoir la ferme conviction que le destin est réel. La ferme foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ne pas le remettre en cause, mais mettre en place les causes pour faire évoluer sa situation. Et également s'armer de patience, comme on l'a cité. Et le fait qu'après la difficulté, il y a une facilité. Mon intervention s'arrête là-dessus. Alhamdulillah, juste à titre de rappel rapidement, comme vous le savez, la mosquée d'Alua organise une collecte de dons. Donc comme vous le savez, l'objectif de cette collecte est de financer l'entretien de la mosquée, mais également l'autofinancement de la mosquée, ce qu'on appelle Al-Waqf en arabe. Et comme vous le savez, les mosquées dans les pays étrangers sont financées par les ministères des Affaires étrangères, sont financées par des bienfaisants, etc., par des organisations étatiques bien souvent. Nous, ici en Europe, comme vous le savez, donc la situation est autre. Et donc, la seule solution, c'est de passer par justement le financement à travers les dons. Et effectivement, pour pérenniser l'activité de la mosquée, pour pérenniser l'entretien de la mosquée, le financement de la mosquée, l'idée est de justement mettre en place l'achat de maisons, par exemple, ou de biens qui pourront justement permettre le financement, un autofinancement de la mosquée. Et donc, je vous invite vivement à participer, alhamdoulilah. Comme vous le savez, en cette période des 10 dernières nuits, les dons sont multipliés, alhamdoulilah, notamment lors de la nuit du destin. Donc n'hésitons pas à participer un maximum à la collecte de dons de la mosquée d'Alua. Barakallahu fikum. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم pour votre attention et à très bientôt السلام عليكم ورحمة الله